montagne sur laquelle j'avais grandi, à laquelle j'étais très attachée et qu'elle m'avait donné envie de voir les plus belles à l'autre bout du monde. « Ah, dit-il, je vois, tu fais le tour des huit montagnes. »« Quelles huit montagnes ?» L'homme ramassa un petit bâton avec lequel il fit un cercle dans la terre. Le motif était parfait. On voyait qu'il avait l'habitude de le dessiner. À l'intérieur, il traça un diamètre, puis un deuxième, perpendiculaire au premier, et puis encore un troisième et un quatrième, le long des bisectrices, obtenant ainsi une roue à huit rayons. Je me dis que si j'avais voulu arriver à une figure comme celle-là, je serais parti d'une croix, mais c'était typiquement asiatique de partir d'un cercle. « Tu as déjà vu ce dessin ?» me dit-il. « Oui, lui répondis-je, dans les mandalas. »« Exact, dit-il. Nous disons qu'au centre du monde, il y en a un autre, beaucoup plus haut, le Sumeru. Et autour du Sumeru, il y a huit montagnes et huit mers. C'est le monde pour nous. » Tout en disant ces mots, il traça à l'extérieur de la roue une petite pointe au-dessus de chaque rayon, puis une vaguelette d'une pointe à une autre. Huit montagnes et huit mers. À la fin, il entoura le centre de la roue d'une couronne qui devait, pensais-je, être le sommet enneigé du Sumeru. Il jaugea son travail un instant et secoua la tête, comme s'il avait déjà fait mille fois ce dessin, mais avait un peu perdu la main dernièrement. Il planta quand même son bâton au centre et conclut. Et nous disons, lequel des deux aura le plus appris? Celui qui aura fait le tour des huit montagnes? Ou celui qui sera arrivé au sommet du mont Sumeru? Le porteur de poule me regarda et sourit. Je fis de même parce que son histoire m'amusait et que j'avais le sentiment de la comprendre. Il effaça le mandala de sa main, mais je savais que je ne serais pas prêt de l'oublier. Celle-là, me dis-je, il faut absolument que je la raconte à Bruno.
Alors que Pietro court le monde, et surtout l'Himalaya, pour tourner des documentaires, Bruno s'est installé à l'alpage avec sa compagne pour vivre de l'élevage et des fromages. Mais leur belle énergie ne suffit pas, et au bout de quelques années, la dureté du travail, la rudesse de la vie en montagne, la naissance d'une petite fille, les revenus trop faibles mettent le couple et leurs efforts à rude épreuve. Pourtant, rien ne fera renoncer Bruno à cette vie qu'il s'est choisie.
Je ne l'avais jamais vu aussi abattu. Les choses ne se passaient vraiment pas comme il l'avait espéré. J'avais le même sentiment d'impuissance que lorsque nous étions gamins et qu'il ne décrochait pas un mot de la journée, en proie à un mal-être qui me paraissait absolu et irrémédiable. J'aurais voulu connaître un truc de vieux copain pour lui remonter le moral. Avant qu'il ne parte, je repensais à l'histoire des huit montagnes et me dis qu'elle pourrait lui plaire. Je la lui racontai en tâchant de me rappeler chaque mot et chaque geste qu'avait eu mon porteur de poule. Je dessinai le mandala avec un clou sur une planche de bois. « Alors comme ça, toi, tu serais celui qui fait le tour des huit montagnes et moi celui qui grimpe sur le mont Sumeru ?» me demanda-t-il quand j'eus fini. « On dirait bien, oui. » « Et lequel des deux fait quelque chose de sa vie ?»« Toi, » répondis-je, « pas seulement pour lui redonner courage, mais aussi parce que je le pensais. » Ça aussi, je crois qu'il l'avait compris.
L'hiver suivant.
J'attachais les raquettes à mes chaussures de marche, escaladais le mur de neige durci qui barrait la route et me retrouvais de l'autre côté, dans la neige fraîche. Je mis plus de 4 heures à faire un sentier qui, l'été, m'en prenait moins de 2. Même en raquette, je m'enfonçais dans la neige presque jusqu'aux genoux. J'avançais de mémoire, devinant la ligne aux formes que dessinaient les arrondis et les pentes, à un passage plus évident entre les sapins aux branches chargées, sans une trace à suivre, ni mes points de repère sur le terrain. La neige avait noyé la ferraille des téléphériques, les murets disjoints, les tas de pierres sortis des prés, les souches des mélèzes séculaires. Du torrent, il ne restait plus qu'un affaissement entre les deux bosses molles que formaient les rives. Je le traversais au hasard en faisant un saut dans la neige fraîche, tombais en avant sur les bras sans me faire le moindre mal. Passé de l'autre côté, la pente montait plus raide, si bien que je glissais vers le bas tous les 3 ou 4 mètres, traînant derrière moi une petite avalanche. Je devais alors y aller avec les mains, planter les raquettes comme si c'était des crampons, réessayer plus franchement. Ce n'est qu'une fois arrivé à l'alpage de Bruno que je pus me faire une idée de la quantité de neige. Les fenêtres de l'étable dépassaient à moitié. Mais le vent avait balayé la face tournée vers l'avant, formant une galerie de la largeur d'un pas où je m'arrêtais pour reprendre mon souffle. L'herbe de ce bref tronçon était sèche et morte, grise comme les murs de pierre. Il n'y avait pas de lumière et nulle autre couleur que le blanc, le gris et le noir, et il continuait de neiger. Parvenu en haut, je découvris que le lac avait disparu au même titre que le reste. Il n'était plus qu'une combe enneigée, un doux replat au pied de la montagne. Pour la première fois, après toutes ces années passées à le contourner, je pris tout droit en direction de la Barma. C'était étrange de marcher sur toutes ces eaux. J'étais presque à mi-route quand j'entendis qu'on m'appelait. « Oh » entendis-je. « Berriot !» Je levai les yeux et vis Bruno beaucoup plus haut que moi, une petite silhouette au-dessus de la ligne des arbres. Il agita les bras et se précipita en bas à la seconde où je lui rendis son salut. Et je compris alors qu'il avait des skis aux pieds. Il dévalait la pente en diagonale, les jambes écartées, sans aucun style, exactement comme il le faisait l'été sur les névés. Il tenait aussi ses bras à l'horizontale et le buste penché en avant, dans un équilibre précaire. Devant les premiers mélèzes, je le vis basculer d'un côté et tourner de façon décidée, éviter le bois en prenant par le haut jusqu'au couloir principal du grenon et s'arrêter là. Dans ce couloir, l'été, un petit torrent coulait, mais en cette saison, il n'y avait plus qu'une large piste recouverte de neige qui descendait tout droit sans obstacle jusqu'au lac. Bruno évalua le reste de la pente, pointa ses skis dans ma direction et reprit sa course toujours aussi décidée. Dans le couloir, il prit aussitôt de la vitesse. Je ne sais pas ce qu'il lui serait arrivé s'il avait trébuché et était tombé là, en plein milieu. Mais il tint bon, fonça dans la combe et ralentit peu à peu sur la neige qui s'aplanissait, arrivant jusqu'à moi par la force de l'inertie. Il transpirait et souriait. « T'as vu ça ?» dit-il à bout de souffle. Il leva un ski qui pouvait être vieux de 30 ou 40 ans, on aurait dit une relique de guerre. Il dit « C'est en descendant chercher une pelle dans la cave de mon oncle que je les ai trouvés. Je les avais toujours vus là, je ne sais même pas qui ils étaient. Mais tu viens de t'y mettre ?»« Ça fait une semaine. Et tu sais ce qui est le plus difficile ? Il ne faut jamais viser un arbre quand tu descends dans sa direction, autrement tu peux être sûr que tu lui rentres dedans. »« T'es taré, » dis-je. Bruno rit et me donna une tape sur l'épaule. Il avait la barbe longue, grise, et les yeux brillants d'euphorie. Il avait dû perdre du poids parce que son visage me paraissait plus anguleux que jamais. « Au fait, joyeux Noël !» dit-il avant d'enchaîner. « Viens, viens !»
Nous espérons que les lectures que vous venez d'entendre, extraites du roman « Les huit montagnes » de Paolo Cognetti, vous ont donné envie de lire l'intégralité de ce livre que nous avons tant aimé. Cette lecture vous a été proposée par Françoise, Marie-Paul et Yvan, qui a également assuré la technique. Les intermèdes musicaux sont extraits du CD « Le chant du pâtre » avec Hervé Cligné à la clarinette, Cyril Goujon et Catherine Séon au piano. Merci de votre écoute et à bientôt.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le